votre élu.
Oui, c'est Pierre Carl. C'est pour Alexia. En fait, oui, il n'y a pas de problème. C'est pour enregistrer du son là, lors de la je sais plus quoi, là, de la présentation ce soir de Niveli Traite, qui s'appelle maintenant Guérilla Française, qui a changé de titre, et de fin de concession demain. Voilà. Mais à tout à l'heure. Salut.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Fort et Reclus à l'Elysée, dans le monde entier, sur radiopéril203.com et sur l'audioblog où vous pouvez écouter les émissions, les télécharger, les graver, faire circuler, même faire des commentaires sur les émissions et nous envoyer un mail dont c'est audioblog.arteradio.com/Fort et Reclus à l'Elysée, le tout en attaché et sans accent.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on reste dans la critique radicale des médias, avec un enregistrement des échanges de Pierre Carl avec le public de Cap Cinéma, qui ont eu lieu à Périgueux le 30 novembre dernier. C'était au moment de la projection de son film Fin de concession. Donc, on a cet enregistrement-là grâce à Fabrice. On va écouter ça avec des vrais bouts de la bande-son du film dedans. Donc ce soir, ce qu'on va vous livrer, c'est la première partie de cet enregistrement. Et donc la seconde partie sera diffusée dans 15 jours, donc le jeudi 30 décembre à 18h aussi.
Donc Pierre Carl est à votre écoute pour échanger, pour débattre autour du film. Toujours difficile de poser une première question, sortir d'un film.
Je peux préciser juste une chose, c'est quand je disais que le film n'est pas fini, c'est parce qu'effectivement il y a eu des épisodes avec le dîner du siècle, hein, où on n'arrive pas à aller, on a réussi finalement à y aller. Voilà. Donc la dernière fois, mercredi dernier, on était 300 devant le dîner du siècle, perturber leur cérémonie et empêcher les journalistes à se rendre là-bas sans nous rapporter ce qui s'y passe. Voilà. Donc il y a des épisodes nouveaux qui seront peut-être intégrés dans la version DVD du film.
Alors je vais poser une question à Pierre Carl, ce sera peut-être la seule, parce que bon, j'imagine que vous êtes nombreux derrière à prendre en chemin le débat et à échanger avec Pierre. On a vu ce matin Roger et moi-même le film de Pierre Carl, et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, j'avais un drôle de sentiment là qui s'emparait de moi. Et puis avant même la fin du générique, qui est illustré par la chanson La Scopa de Nino Ferrer. En cours du film, je me suis dit, ben voilà, j'ai cherché quel pouvait être le sentiment, à essayer d'identifier le sentiment qui s'était emparé de moi à la vue du film. Et ce sentiment, c'est ce que Nino Ferrer appelait la désabusion. Alors je ne sais pas si le film est, le qualificatif est propre, est impropre ou non pour caractériser le film.
C'est la première fois qu'on me dit ça, hein, qu'on me parle de ce titre de Nino Ferrer qui s'appelle La Désabusion, qui est le titre de ses disques, sachant que j'ai le projet d'un film sur Nino Ferrer, ce chanteur, un film d'archives. Je sais pas si c'est désabusion, je pense que ce qui ressortait de notre film, c'est plutôt une certaine impuissance. C'est qu'à un moment donné, on a ressenti pendant cette enquête notre impuissance et le fait que ces gens qui sont là depuis 30, 40 ans, pour certains, qui sont à des postes de responsabilité, comme El Kabash, comme Moujotte, comme les frères Duhamel, comme Cavada, tout ça, on s'est dit à un moment donné, trop fort, voilà, trop fort, ou en tout cas, ils savent maintenant comment s'y prendre avec nous, et nous, enfin, ou les quelques-uns qui avons incarné une critique assez radicale des médias autour de Bourdieu à partir de 1995, et donc on s'est posé des questions sur l'efficacité de cette critique, et sur... Oui, une certaine impuissance qui était la nôtre, parce que ces gens-là, malgré les attaques rudes, fortes que l'on a menées contre eux, à travers des journaux, à travers des films, des livres, des différents ouvrages, ils sont toujours là, et ces dinosaures s'accrochent au pouvoir et continuent d'être nuisibles. Voilà. Et en plus, il y a cet échec de notre part, quand vous voyez chez Étienne Moujotte, vous avez presque pitié pour lui, quoi. Alors que ce type est une des pires crapules des médias français, mais on a échoué à le représenter tel qu'il est, ce petit vieillard à la voix chevrotante, vous pouvez pas imaginer qu'il soit aussi, qu'il puisse faire autant de mal qu'il en fait. Et il en fait, hein, je peux vous dire, à la tête du Figaro et avant à la numéro 2 de TF1. Donc, c'est vrai que le sentiment, il y a eu le sentiment d'une impuissance de notre part, je dirais pas d'un échec, parce que en même temps on renie pas ce que l'on a fait et on n'a pas pour autant baissé les bras. On s'est dit qu'il fallait repartir de l'avant, qu'il fallait essayer d'inventer des choses nouvelles, sans forcément réussir d'ailleurs, mais en tout cas l'opération que l'on a menée à un moment donné contre David Pujadas, cette opération, je pense qu'elle est, c'est une volonté de notre part de dire il faut qu'on réinvente autre chose. Voilà, il faut qu'on réinvente autre chose. Il faut qu'on soit là où ils ne nous attendent pas. Il faut qu'il soit là, pour être un tant soit peu subversif, il faut être là où on ne nous attend pas. Alors c'est vrai que là aussi, j'ai constaté ça lors de plusieurs projections, les gens me disent, ouais mais vous étiez en supériorité numérique, donc ils passent pour une victime, donc c'est salaud quand même de s'en prendre de manière aussi violente. J'ai entendu des gens me dire que c'était violent ce qu'on avait fait avec Pujadas. Et là, je me dis, le système est très fort, parce qu'il est capable, lui, de gommer la violence qu'ils exercent eux, hein, il y a qu'à voir comment Pujadas interviewe un syndicaliste et comment il interviewe un chef de l'État, on voit que c'est quand même deux poids deux mesures.
Bonsoir et bienvenue à tous. L'exaspération et la violence dans les conflits sociaux ont donc franchi un nouveau cap cet après-midi. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous pose
la
question.
On regrette rien, ça va. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, à côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens.
Mais attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter, crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre.
Xavier Mathieu,
aujourd'hui, on se rend compte.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
On voit que quel mépris ou quelle condescendance il peut avoir à l'égard d'un syndicaliste en lutte, en colère, et comment il peut se comporter comme un larbin avec un président de la République. Il en est coutumier d'ailleurs de ce genre d'exercice.
Tout de suite, David Pujadas en direct de l'Élysée pour un entretien avec le président de la République. C'est à vous, David.
Mais qu'est-ce que vous croyez que sont mes journées?
Elles sont chargées, ça c'est certain.
Non, pas simplement l'emploi du temps, il y a des tas de gens qui ont des métiers difficiles. Quand j'ai un moment, vous savez ce que je fais? Je le passe en famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Et je me dis, allez, on parle d'autre chose que de la présidentielle de 2012.
Merci, monsieur le président, de nous avoir accueillis ici, au Palais de l'Élysée.
Et voilà, c'est vrai que c'est un film qui, de ce point de vue-là, est assez désenchanté. Désenchanté.
Quand vous parlez de Pujadas, savoir comment s'était terminée cette histoire, en fait. Si vous avez eu une poursuite ou...
Oui, ça s'est terminé par une poursuite dans le RER. Le RER A a été bloqué pendant un quart d'heure parce que les vigiles, après qu'il soit rentré dans le sas, il est allé quand même appeler les vigiles. Alors ce qui est étonnant, il n'était pas du tout surpris qu'on lui remette cette laisse d'or, parce que c'est quelque chose qui avait déjà été fait dans le journal PLPL, puis dans le journal Le Plan B, c'est-à-dire de remettre des laisses d'or symboliques à des gens que l'on estimait très serviles avec le pouvoir politique ou économique. Mais donc il l'a négligé comme ça, oui, il s'en foutait. En revanche, le fait que l'on s'en prenne comme on s'en est pris à son scooter, à un bien matériel, alors ça dit peut-être quelque chose sur la société hyper matérialiste dans laquelle on vit. Je pense même qu'ici, certains spectateurs, je ne dis pas ça avec mépris, sont choqués par le fait que, merde, quand même, pas le scooter, enfin, pas de la bombe sur un scooter, non, ça c'est pas possible. Parce qu'on est très attaché dans cette société à des biens matériels, à des voitures, à des scooters, à des je sais pas quoi, bon, sur une Rolls, ouais, la Rolls, on l'a pas trouvée. On en trouvera une un jour, mais la planque peut-être, non. Il était assez dérouté, déstabilisé par le fait qu'on s'en prenne à ce scooter. Ça l'a dérouté, quoi.
Non, le scooter c'est pas tout, là.
Et donc il est allé chercher les vigiles qui nous ont un peu coursé. Ça s'est terminé par un éparpillement général dans les rues de Paris. Il n'a pas porté plainte. Il n'a pas porté plainte et je pense qu'il n'a pas eu tort. Je dis ça. Je crois qu'il a compris que ce type d'action, c'était pas terrible pour lui, parce que si on était allé au procès, que nous on avait expliqué pourquoi on avait mené ce genre d'action, qu'on aurait dû apporter des preuves, montrer que, bah oui, voilà comment il se comporte avec les petits, et voilà ce qu'il, raconte aussi. Il y a quand même cet incroyable propos tenu sur Arte, où il nous explique que le gros problème de la télé, c'est qu'on est trop complaisant avec les faibles, avec les petits, avec les pays pauvres, enfin c'est quand même incroyable que quelqu'un puisse dire une connerie pareille quand même.
On entend souvent que le journalisme serait en difficulté à cause des pressions politiques ou des pressions économiques. Comme journaliste, comme lecteur, comme téléspectateur, je crois que le problème n'est pas à côté de nous, mais qu'il est en nous. C'est ce qu'on pourrait nommer le journalisme des bons sentiments, de même qu'il y a une littérature des bons sentiments. Mais il y a plus que ça. Le journalisme des bons sentiments, c'est aussi une bien-pensance. C'est l'idée que, par définition, le faible a toujours raison contre le fort, le salarié contre l'entreprise, l'administré contre l'État, le pays pauvre contre le pays riche, la liberté individuelle contre la morale collective. En fait, c'est une sorte de dérive mal digérée de la défense de la veuve et de l'orphelin. Alors que faire ? Eh bien, sans doute tout simplement, revenir aux fondamentaux du journalisme, s'écouter soi-même et laisser parler sa propre curiosité, ne pas se glisser dans un moule.
Là, on se dit qu'ils se sentent tout puissants, parce qu'ils le croient d'abord, il est sincère en disant cela, il en est persuadé qu'il y a un vrai problème à la télé, c'est qu'on est trop gentil avec les petits. C'est bon. Et il est capable d'aller le dire à 20h30 sur Arte, sans aucune honte. Et voilà, c'est vrai qu'on était un peu désemparé par ce genre de gens, de propos, et qu'on a choisi ce type d'action pour essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Il y a aussi, comme vous l'avez vu dans le film, il y a un moment où j'essaie un peu à la manière de Don Quichotte d'aller me battre contre ces moulins à vent. Il y a cette séquence avec François-Olivier Gisberg dans une librairie où je me fais huer par le public. Et là, c'est là qu'on se dit, bon, là il faut arrêter les actions individuelles, il faut arrêter les actions kamikazes, il faut repartir. C'est là que je me dis, il faut repartir avec quelque chose de plus collectif, et c'est là qu'on se retrouve en groupe à aller voir cet économiste néolibéral Marc Toiti, et ensuite à mener l'action contre Pujadas, et encore plus récemment à mener des actions très collectives contre le dîner du siècle et la présence de journalistes dans ce dîner du siècle. Donc finalement, s'il y a une morale dans l'histoire, c'est que l'action individuelle a des limites et qu'il faut du collectif, repartir vers du collectif, quoi. Je pense que c'est une des morales de l'histoire. Le film respecte complètement la chronologie du tournage, et vous voyez, spectateur, vous voyez finalement le chemin qui a été fait. On démarre tambour battant, on va refaire un remake de Pas vu, pas pris, mon premier film, on va s'en prendre à la télévision de manière très jubilatoire, se foutre de leur gueule, révéler, il y a cette séquence avec Charles Villeneuve là qui interrompt l'interview, celui qui a la musique du parrain qui est déclenchée par son téléphone portable à un moment donné, qui a d'ailleurs un costume croisé. Ça c'est des hasards, vous mettrez ça dans une fiction, on vous croirait pas, hein, que le type il se comporte comme un parrain et il est habillé comme un parrain et il a sur son téléphone la musique du parrain de Coppola, le film de Coppola.
Pourquoi la télévision française est si tiède, et y compris Canal? Même Canal ne fait pas ce travail. Les grands scandales sont toujours traités 20 ans
Canal
après.
L'affaire Elf a fait
l'objet de téléfilms 20 ans après, c'était fini.
Oui, mais Canal a fait quand même, peut-être, oui, vous avez raison de souligner que c'est 20 ans plus tard, 20 ans après. Hein. Mais Canal fait quand même cet effort.
Le film retrace toute la chronologie avec tous les doutes, les hésitations, les moments où on estime qu'on atteint certaines limites. Il y a cette séquence avec Cavada où je me fais complètement empapaouté par Cavada qui me cire les pompes, qui est très flatteur avec moi, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et habituellement, ce genre de choses dans les films, vous les écartez, vous les virez, ça marche pas comme prévu. Et donc vous virez ça, quoi. C'est des choses qu'en général on en a un peu honte, on dit merde, c'est pas ce que j'avais prévu de tourner, de filmer. Et avec les monteurs, avec la productrice Annie Gonzalez, on s'est dit mais non, c'est ça l'intérêt du film, c'est de raconter cette impuissance, cette difficulté de retrouver une certaine fougue de jeunesse ou une certaine efficacité qui était la nôtre 15 ans plus tôt. C'est pas facile de vieillir quand on est rebelle ou on a été rebelle. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là que le film aborde sans, je pense, trancher en soulevant plus de questions qui n'apportent de réponses. Mais le pari qu'on a fait, quand vous voyez des films, en général, vous aimez bien qu'on vous spectateurs et moi aussi, on aime bien qu'on nous raconte des histoires au cinéma. Là, je pense que la particularité de ce film, c'est pour ça qu'il est sûrement un peu déroutant pour vous, c'est que on ne se raconte pas d'histoire. C'est un film qui ne vous raconte pas d'histoire, enfin, où on ne se raconte pas d'histoire. Et ça, c'est toujours un peu emmerdant dans un documentaire, voilà. On a envie de rêver, on a envie de se dire, ça va se terminer bien, ça va se terminer de manière triomphale, ça va se terminer par une grande, voilà. Alors peut-être que dans la version DVD, ça se terminera un peu autrement quand on aura foutu en l'air leur dîner du siècle. On n'en est pas loin. Plumet Goudron, alors ça a un peu dérouté Jean-Luc Mélenchon, que j'appelle à ce moment-là. Il n'a jamais répondu, il n'a jamais rappelé depuis. Hein,
Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est Pierre Carle. Donc en fait, on a mené la petite opération laquée, hein, la remise du laquée du siècle, hein, hier. Et on souhaiterait en préparer une seconde, donc qui serait plutôt une opération qui s'appelle Plumet Goudron, c'est-à-dire enduire de plumes et goudron des personnalités de l'audiovisuel. Alors, si je vous en parle, c'est parce que ça serait assez drôle que Plumet Goudron, dont le sigle est P et G, hein, parti de gauche, c'est le même sigle, donc on pourrait peut-être mener une action conjointe là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait peut-être pas mal qu'on se rappelle là-dessus. Allez, à bientôt, salut.
Il doit se dire, c'est quoi ce dingue qui me propose de s'associer à ces actions complètement farfelues, et il ne nous a jamais rappelé, voilà. Paris aussi, c'est qu'effectivement avec ce film, on vous fait vivre 30 ans de la télévision française, quoi. C'est-à-dire vous avez là des archives qui balayent 30 ans de ce lieu de pouvoir qu'est la télévision française, et la plupart de ces archives, vous les avez jamais vues ou revues, hein. Je pense que le film là-dessus a une valeur, on va dire, il documente cette histoire. Vous avez ces archives avec tous ces cirepompes du pouvoir. Cette archive incroyable avec Jean Edernalier qui en 1979 racontait déjà qui étaient les gens qui sont encore à des postes de responsabilité aujourd'hui, pour vous dire à quel point ça n'a pas évolué, au contraire ça a régressé. Ils étaient toujours là, ils étaient déjà là en 79 à cirer les pompes du président de l'époque qui était Valéry Giscard d'Estaing.
L'abjection règne. Elle cabache aux mains moites de frousse. Roger Jiquel à la tête de CRS en congé de maladie. Les frères du Hamel, le régime en attend même un troisième pour la Noël. Des petits Jésus de la lèche et hontée. Demain, à la tête de RTL, Grimbach, pour avoir partagé avec le président des secrets d'alcôve. Zitrone, ce vieux larbin. Moujotte, ce faux derche revenu de toutes les gauches. Bassi ou Cavada, si nul, si prétentieux ou falsificateur, que même une radio africaine, même l'empereur Bokassa, hésiterait à les employer. Tous allaient du régime, que dis-je, du fantasme giscardien, ce chef-d'œuvre de transparence et de vide.
Et ces gens sont toujours là, accrochés au pouvoir, et ne souhaitant pas partager des miettes de leur pouvoir et continuant de faire le jeu du pouvoir économique et politique.
Comment avez-vous pris la réception de votre film, La fin de concession, dans la presse? Parce que j'avais lu notamment un article dans Le Monde, qui était intéressant d'ailleurs, qui était un grand article en plus, mais qui effectivement faisait aussi un peu ce constat peut-être de cette désillusion que vous éprouvez, ou en tout cas de la limite que vous trouvez peut-être à l'exercice. D'une façon générale, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réception globale de votre travail? Parce que c'est un film dont on a quand même pas mal parlé finalement.
Le film a eu une bonne critique, plutôt une bonne critique, en tout cas par rapport à mes films précédents. Et effectivement, le Monde l'a critiqué de manière très positive. Il y a eu une critique même dithyrambique dans Le Monde. J'étais pas habitué du tout à cela. Habituellement, le Monde ou Libération sont pas forcément très favorables à mon travail. Si, ça m'inquiète même. Ça m'inquiète. dans Le Monde, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a fait la critique l'a vu comme une comédie. L'a vu comme un film de Nanni Moretti, l'a vu comme un film connaissait peu ou mal mon travail, ou en tout cas n'avait pas d'attente par rapport à ce que je peux incarner dans le domaine de la critique des médias, donc m'a vu comme une espèce de trublion lancé dans cet univers. Et c'est vrai que le film a été montré à l'étranger, notamment en Suisse alémanique, et les gens le voient pas du tout comme ici. Ils le voient comme une comédie, ils voient comme une espèce de dingue qui se balade, enfin de dingue ou de naïf ou de faux naïf, je sais pas quoi, qui se promène dans cet univers de la télévision française et à qui il arrive toutes ces péripéties. Donc la perception du film n'est pas la même selon que vous êtes déjà informé de ce que j'ai fait précédemment ou pas. Voilà. Après, c'est vrai que moi je me méfie toujours je me méfie encore plus avec Cavada. Depuis l'épisode Cavada, quand les gens me disent du bien de mon travail, je suis un peu inquiet. Voilà, maintenant, depuis ce qui s'est passé avec Cavada. Mais après, libre aux critiques de penser ce qu'ils veulent du film. Il y a des gens aussi qui sont très hostiles à mon travail, pas celui-ci forcément, mais à mon travail en général. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que ce film-là, comme tous mes films ou presque, a peu de chances d'être vu un jour à la télévision. Voilà. Je peux quand même avoir une certitude là-dessus. Encore plus sur Arte, je peux vous dire. Encore plus sur Arte, les gens d'Arte détestent mon travail. Et en plus, là, on se fout un peu de leur gueule avec leur émission, là. Je suis journaliste en colère.
Ils connaissent de l'intérieur la folle machine des médias. Nous leur avons donné carte blanche pour dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, pour dire ce qu'on ne vous dit pas. David Pujadas est une star de l'info. Chaque jour, son journal de France 2 à 20h réunit plus de 5 millions de téléspectateurs. Nous lui avons demandé un édito sur la crise des médias. Écoutez sa réponse, elle est inattendue.
Et non, Arte, je pense que le fait qu'on mélange ces niveaux de le côté potache qu'il peut y avoir dans mon travail, le fait d'assumer une certaine fantaisie ou un aspect parfois extrêmement potache dans certaines actions, et en même temps de traiter de sujets sérieux, la concession de TF1, enfin ce mélange-là très impur qui apparaît dans une grande partie de mon travail n'est pas apprécié des chaînes de télévision et même d'une certaine critique. Et moi, je revendique ça. Je revendique de pouvoir parler de choses sérieuses de manière légère et de manière sérieuse de choses légères. Voilà. Je pense que ce mélange-là, je le revendique mordicus et qu'on se prenne pas non plus trop au sérieux. Je pense que c'est une des choses qui peut apparaître. Et puis, cette dimension autoréflexive qui, je pense, est assez autocritique ou autoréflexive qui, je pense, est assez rare dans le monde du documentaire, qu'on puisse à un moment donné faire un travail comme ça où on signale nos limites, nos faiblesses, c'est pas quelque chose qui est fréquent, je crois, dans le monde du documentaire, voilà. Me semble-t-il, hein, je sais pas, vous avez peut-être vu plus de films que moi, mais il me semble que c'est pas courant. Alors, si on peut le faire, ce travail, c'est parce qu'il y a cette productrice, Annie Gonzalez, qui me donne une liberté extraordinaire, qui me dit, ne te limite pas. Je veux utiliser une archive, je me pose pas la question de savoir si on aura le droit juridiquement ou pas de l'utiliser. Je l'utilise si elle a sa place dans le film, et après on verra. Je vais utiliser une séquence alors qu'un personnage nous a envoyé une lettre nous menaçant d'un procès. Si elle a sa place dans le film, on l'utilise. Et je me pose pas de question là-dessus.
Oui, voilà. Je peux pas être d'accord avec vos propos.
Oui, mais ça n'a rien à branler. Et moi, je refuse de toute façon de paraître dans votre émission. C'est tout.
Donc, vous me donnez la cassette, s'il vous plaît. C'est mon droit.
Non, non, vous ferez une démarche auprès de la société de production.
Monsieur Lambert, nous avons reçu une lettre de l'avocat Charles Villeneuve.
Mise en demeure avant procédure judiciaire. En tout état de cause, vous êtes responsable des faits de votre préposé Pedro Carlos, dont la traduction française est le nom de Pierre Carl, journaliste qui vous est très proche. Et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous invite à m'indiquer les noms et adresses de votre conseil habituel.
Voilà.
Donc ça c'est quelque chose de très rare, il n'y a aucun producteur ou productrice qui vous permet d'avoir cette liberté dans le cinéma français. Hein. Mais c'est parce qu'on n'est pas produit par la télé, c'est parce que la télé n'a pas de contrôle sur nos films, donc on peut faire des films je pense extrêmement libres, avec leurs défauts et leurs qualités.
C'est moi qui ai le micro. Donc, effectivement, dans votre film, et puis je pense que c'est quand même un discours qui est quand même assez diffusé, la collusion entre les milieux médiatiques, financiers et puis le pouvoir politique. Ceci étant dit, je pense que c'est assumé relativement, même si c'est pas public, de la part des journalistes. Je pense quand même que c'est des gens qui arrivent à dormir la nuit, du moins pour la plupart. Et du coup, on se dit, mais à un moment donné, ils sont complètement dingues quand ils arrivent à assumer de dire, moi, j'ai un esprit critique et je suis pas justement un toutou, un valet, un laquais, peu importe l'appellation qu'on lui donne. Et du coup, la réflexion que je me fais, et du coup, j'aimerais savoir si vous la partagez, c'est de savoir si justement cette collusion-là et d'une manière générale l'esprit libéral est tellement ancré à ce point que justement il arrive à s'ancrer dans les corps et dans les mentalités au point de pouvoir penser qu'on a quand même une liberté d'esprit et un esprit critique. Je ne sais pas si je suis claire.
Je crois que les gens les plus efficaces dans ce système, dans cette énorme machination de domination médiatique, je crois que les gens les plus efficaces, c'est les gens qui n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils font. C'est ceux qui sont qui sont pas des cyniques, qui sont des gens qui... Pujadas est un drôle d'exemple. Il est à la fois, je pense, persuadé qu'il se comporte correctement d'un point de vue journalistique quand il fait son travail de présentateur du 20h. Il ne voit pas où est le problème, Et en même temps... Il manque d'honneur parce qu'il se fait traiter de larbin, de laquais, de salaud, et il ne porte pas plainte. Et on lui dort son scooter pour l'expliquer qu'il nous semble être à nos yeux un laquais, et il ne porte pas plainte. Donc c'est un manque d'honneur incroyable, quoi. C'est-à-dire que si le type est persuadé qu'il fait correctement son boulot, il devrait quand même porter plainte. Moi, c'est ce que j'attendais, parce qu'il porte plainte et qu'on aille s'expliquer, et qu'on aille expliquer, nous, pourquoi à notre avis, il était ce laquais. Mais les gens, dans ce système, les gens les plus efficaces, c'est pas les... Moujotte, il sait, Moujotte, ce qu'il fait comme boulot. Il sait qu'il fait le sale boulot. Il sait qu'il le sait. Donc, lui, il est pas inconscient, il est pas innocent. Innocent, ils sont pas innocents, aucun. Mais les gens les plus dangereux, je crois, c'est ceux qui n'ont aucune conscience d'être en train de servir les puissants. Qui ne comprennent pas pourquoi on leur reproche de fréquenter les puissants et de ne pas raconter ce qui s'y passe. Il y en a certains qui sont dans cet état d'esprit-là. Ils disent, mais pourquoi vous nous reprochez d'aller au dîner du siècle? C'est normal. Bon, on dit, mais non, ce qui est pas normal, c'est que vous alliez, que vous viviez dans ces sphères-là. Quelle est votre légitimité pour parler du monde social quand vous appartenez à ce milieu-là, quand vous vivez dans le 16e arrondissement de Paris ou à Neuilly, quand vous envoyez vos écoles dans les mêmes écoles que celles des élites économiques et politiques, quand vous passez les mêmes vacances qu'eux, quand vous avez des niveaux de vie ou des trains de vie tels, on en parlait tout à l'heure là pendant la projection, un type comme PPDA, je sais pas les autres, mais PPDA à une époque gagnait 150 000 euros par mois. 150 000 euros par mois. Vous vous rendez compte dans quelle sphère il vit le type, quoi. L'honnêteté, ça serait de dire ce journal est présenté par un représentant de la haute bourgeoisie française et qui n'a aucune légitimité pour vous raconter ce qui se passe dans le monde social. Ça serait la moindre des choses, quoi, qu'il y ait un déroulant en permanence sur les journaux télévisés de ces gens qui vivent dans ces sphères. Ça, vous le verrez jamais. Hein, vous verrez jamais un déroulant en disant attention, il vous raconte ce qui se passe en banlieue, mais alors vraiment, il n'y a jamais mis les pieds, il ne sait même pas ce que c'est une banlieue française et où il n'a aucune capacité de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Enfin, bon, bref. Donc ces gens-là, je ne sais pas si je réponds à votre question, sont capables de s'auto-intoxiquer, de se faire croire pour la plupart qu'ils font correctement leur boulot, qu'ils ne comprennent pas les reproches qu'on leur fait, hein, qu'on leur font. Ils ne comprennent pas. Certains ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été formés par Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, ils sont passés, ils ont tous le même cursus, à peu près, hein. Sciences Po Paris, qui les forme pareil, ou qui les déforme. Le centre de formation des journalistes, qui est la suite de Sciences Po Paris, où ils sont, où les profs, c'est les Pujadas et compagnie, ou les intervenants, plutôt. Et, après, il y a le problème de la, on leur apprend à travailler pour les journalistes de base. Là, je parle pas pour les journalistes responsables, mais pour les journalistes de base, on leur apprend à travailler très vite de manière, pour être rentable. Et travailler très vite, c'est quoi? C'est tendre des micros à des gens et à des gens, à des institutions. C'est pas faire d'enquête. Le journalisme, au sens noble du terme, c'est l'enquête. C'est passer du temps sur le terrain. C'est, alors vous avez un peu dans le monde de l'édition papier, écrit, livre, vous avez encore un peu d'enquête, vous avez des gens comme Günther Wallraff en Allemagne qui va passer 6 mois dans certains milieux, ou même Florence Obna qui a passé 6 mois chez les précaires dans le Nord, ça elle l'a fait pour un bouquin. Mais dans l'univers du journalisme télévisé ou radiophonique ou même presse écrite, vous avez très peu de gens qui font de l'enquête, au sens où l'enquête c'est... aller sur le terrain avec des a priori de départ et pouvoir revenir sur nos a priori, avoir le temps de revenir sur nos a priori, arriver documenté, pouvoir se documenter, pouvoir douter, pouvoir tâtonner. Non, là on ne peut arriver qu'avec des certitudes et aller illustrer ces certitudes. Et les certitudes que l'on a, ce sont celles qu'on nous a foutues dans la tête quand on est passé par Sciences Po, quand on est passé par le CFJ, le Centre de formation des journalistes, etc., etc. Donc ces gens-là, qui soient responsables de l'information ou journalistes de base, font le même boulot. Ils font un boulot qui est au service des puissants, sans forcément s'en rendre compte, sans forcément en avoir la conscience de cela. Bon, je fais un tableau rapide, là, il faudrait argumenter, il faudrait étayer, mais il y a des bouquins, il y a les bouquins d'Alain Accardo, le sociologue bourdieusien, il y a les bouquins de Bourdieu, il y a les bouquins de Serge Halimi, il y a toute une série d'ouvrages qui vous permettent d'approfondir ces questions de servilité des journalistes à l'égard du pouvoir économique ou politique. Je suis pas d'accord. Je pense que les manifestations, c'est bien, c'est, il faut qu'il y en ait, mais il faut qu'on invente autre chose. Parce qu'on voit, on peut être 3 millions ou 2 millions dans la rue, le pouvoir s'en tape totalement. Hein. Et les médias sont capables de faire passer ça pour quelque chose de... Oui, hein, ils ont manifesté, mais bon, hein, les retraites sont... C'est ce qui s'est passé avec l'histoire des retraites, la réforme des retraites. Vous avez vu comment ça a été traité médiatiquement. C'était pas hostile aux manifestants, mais en gros, il faut que manifestation se passe, hein. C'est comme il faut que jeunesse, voilà. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, ce qu'on peut pas nous reprocher, c'est d'avoir inventé, essayé d'inventer quelque chose, et de l'avoir fait. De l'avoir tenté. Après, c'est peut-être pas forcément une réussite, mais en tout cas, on a tenté une nouvelle forme d'action, qui est de s'en prendre, effectivement, à ces gens-là, pour essayer de rendre visible leur servitude, d'un point de vue visuel, d'un point de vue, oui, visuel. Et je pense qu'on continuera de, ce qu'on a fait récemment au dîner du siècle, qu'on est en train de faire au dîner du siècle, on continuera d'essayer d'inventer des formes nouvelles d'action, parce que je pense que les formes traditionnelles d'action, les médias savent très bien comment les digérer. La société du spectacle est très forte pour les digérer, les évacuer, les voilà. Et donc je pense qu'il faut inventer autre chose. On peut pas continuer, il faut continuer la critique que l'on a faite, qu'on a commencé des médias, il faut continuer à la faire, cette critique, celle que fait Acrimed, le site internet Acrimed, ou d'autres, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça ne suffit pas, et la preuve, c'est qu'ils sont toujours là. C'est que les mêmes sont toujours là depuis 40 ans, donc il y a un moment, il faut se poser une question, quelle est notre efficacité? Il faut se poser la question, comme pour les manifestations, il faut se dire, bon, il y a un moment où on se demande, c'est quoi l'efficacité de manifester dans la rue si le pouvoir est capable de... d'écarter d'un revers de la main la présence d'autant de personnes dans la rue. Il faut se poser des questions. Et ne pas s'en poser, je pense que c'est... Ça veut dire qu'on veut que les choses changent pas, si on se pose pas de questions là-dessus. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas mécontent que la société reste en l'état. Voilà.
Oui. La réflexion que je veux vous soumettre m'est venue après avoir vu votre premier film, Pas vu, pas pris.
Oui, allez-y.
Le magicien a horreur qu'on dévoile les secrets de ses tours. Et or, l'information télévisuelle est un spectacle avec sa mise en scène, ses artifices. Donc la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que la limite de votre travail ne réside pas dans le fait que simplement vous venez dévoiler sur scène les artifices du magicien? Autrement dit, je peux la poser différemment. Est-ce que finalement, vous n'avez pas tout dit dans votre premier film?
Non, parce que je pense que la réflexion... Je crois que je n'ai pas tout dit dans mon premier film. D'abord, je peux vous affirmer que ce que vous avez vu sur TF1 et l'histoire de la concession de TF1 dans ce film, vous l'avez vu nulle part ailleurs. Voilà, je peux vous dire, vous n'avez jamais vu les auditions Bernard Tapie. Non, mais non, on ne peut pas deviner. Non, c'est facile de dire on le savait, tout ça, mais je pense que vous n'avez jamais vu à quel point ils sont foutus de notre gueule. Voilà, ça vous l'avez jamais vu, à quel point ils sont foutus de notre gueule. À quel point Bernard Tapie a raconté n'importe quoi au moment de la concession de TF1. À quel point, je pense que là, vous avez rassemblé, vous n'avez jamais vu cette archive où Nicolas Sarkozy vient expliquer en 1992 que TF1 ne doit pas payer une amende.
TF1 vient d'être condamné à 30 millions de francs d'amende par le CSA. Cet organisme estime que notre chaîne n'a pas exécuté son quota de création française pour 91.
Ça, c'était en juillet 1992, dans le journal télévisé de TF1.
Et le vice-président de TF1, Étienne Moujotte, juge insultante cette sanction prise, je cite, dans l'arbitraire le plus complet, qui pénalise gravement la société, ses collaborateurs et ses actionnaires. Invité de TF1, Nicolas Sarkozy, député maire de Neuilly et secrétaire général adjoint du RPR. Alors, Monsieur Sarkozy, vous savez que notre chaîne investit 800 millions dans la création. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement du CSA?
Absurde et choquant.
Pourquoi?
Mais finalement, ce qui est formidable avec les socialistes, c'est qu'il se passe toujours quelque chose.
Nicolas Sarkozy était très proche de Martin Bouygues, qui avait pris la succession de Francis Bouygues à la tête du groupe industriel. Et d'ailleurs, lors de l'attribution de la concession de TF1 en 1987, Nicolas Sarkozy était son avocat d'affaires sur le dossier de privatisation de la chaîne.
Cette décision est une mauvaise décision, et croyez-moi, si l'opposition revient aux responsabilités du gouvernement, nous reviendrons sur cette réglementation.
Qu'est-ce qu'il fait Sarkozy ce jour-là, en 92, quand il vient sur le plateau de TF1 pour dire à TF1 « Vous avez raison de ne pas payer l'amende du CSA ». Il leur dit en gros « Voilà, on prend date là, moi j'ai besoin d'être président de la République un jour, et là je vous file un coup de main, et vous n'oubliez pas le renvoi d'ascenseur ». Ils n'ont pas oublié le renvoi d'ascenseur. Ils ont fait la campagne de Sarkozy en 2002 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et ils ont surmédiatisé l'insécurité pour en faire ensuite un président de la République. Donc je pense que ces éléments-là, ces archives-là, vous avez jamais vu nulle part. C'est-à-dire que là, il y a une valeur informative et de documentation sur les rapports entre le pouvoir et un groupe industriel que vous avez jamais vu nulle part. Même si l'enquête, à un moment donné, s'interrompt, s'estompe, ne va pas jusqu'au bout, je peux vous dire que les 40 minutes que vous avez vues là, vous avez vu nulle part.
Vous le dites et ça vous honore, mais ça change quoi?
Non, c'est pas que je dis que ça m'honore, c'est que c'est vrai ce que je raconte. Hein.
Oui,
dites-moi, vous l'avez vu.
Bien
dites-moi, vous l'avez vu.
Ça change quoi? Ça change quoi?
Ah non, mais ça change que sur les rapports entre un futur président de la République ou entre un groupe industriel ou le pouvoir d'un groupe industriel sur l'avenir de ce pays, vous avez là des éléments qui vous permettent, vous, spectateurs, je pense, d'argumenter, de dire à quel point...
Vous restez confidentiel. D'ailleurs, pourquoi m'est venue cette réflexion? C'est parce que Carl Zéro, à la fin de votre premier film, se fout de votre gueule. Quand il vous dit « Pourquoi tu ferais pas un reportage sur Jean Edernalier ?» Pourquoi il vous dit ça? Parce que vous êtes, comme Edernalier, un provocateur et un libertaire. Et il vous dit ça parce que Edernalier est déjà mort, et vous, par le film « Pas vu, pas pris », vous signez votre mort médiatique. C'est-à-dire que depuis, vous n'êtes plus. Vous intéressez des gens comme moi, mais vous n'êtes plus. Vous êtes dans la confidentialité. C'est pour ça que je pose la question. Moi, je trouve extrêmement intéressant votre travail. Mais j'en perçois par le même ses limites. C'est ce que je voulais vous dire.
Non, mais il a des limites. C'est évident qu'il y a des limites. Après, la confidentialité, ce que vous appelez la confidentialité, elle est toute relative. J'ai des films qui sortent en salle de cinéma, des films non produits par la télé qui sortent en salle de cinéma. On n'est pas très nombreux. Hein. Je pense que je suis un des rares. Je suis même le seul peut-être qui est sorti 8 longs métrages, 7 longs métrages sortis en cinéma, qui ont eu un certain impact, un certain écho, qui circulent énormément sur Internet. Là encore, aujourd'hui, en passant dans une rue, j'ai vu qu'il y avait Attention Danger Travail, qui faisait l'objet d'une projection sauvage. Voilà, c'est parce que les films, ils circulent. Après, ils échappent à ce que l'on avait prévu, et c'est tant mieux. Voilà. Donc on peut pas préjuger de la confidentialité d'un film à sa sortie. Il faut voir dans 10 ans si effectivement il restera confidentiel ou si il circulera parce que des gens s'en seront emparés parce que des profs dans les lycées vont les montrer à des ados. Je sais pas. On verra. Après. Ce qui est vrai sur Edernalier, d'abord j'espère pas finir comme Edernalier, parce que Edernalier il a fini par cirer les pompes de Chirac, hein, à la fin de sa vie. Donc j'espère que, ou alors si c'est Edernalier, c'est plutôt le premier Edernalier, celui qu'on voit dans le film lorsqu'il s'adresse en 79 au journaliste en question. Mais j'ai pas fait que des films sur la télévision, mes films sur la télévision sont minoritaires dans ma filmographie. Pour ceux qui ont vu la rétrospective qu'a fait la bibliothèque municipale de Périgueux là, pendant plusieurs semaines, j'ai réalisé des films avec d'autres réalisateurs sur le travail ou sur le salariat, ou de reformulation de critique du salariat. Hier, on a présenté un film où les questions du groupe Action Directe et de la lutte armée dans les années 80-70 en France. J'ai fait un portrait de Pierre Bourdieu. Il y a un autre film qui passe ici, qui est un portrait d'un grand mécréant, le professeur Chouron, fondateur d'Arakiri Charlie Hebdo. Enfin bon, bref, mes films sur les médias sont minoritaires dans ma filmographie. Effectivement, il y a un moment où je ne fais plus partie de l'univers des médias. Là, ça se sent, même s'il y a des flashbacks. Et je n'aurai plus grand-chose à raconter sur cet univers, parce que ma légitimité, c'était... Enfin, en tout cas, mon point de vue, c'était d'avoir été là-dedans et de pouvoir raconter à l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur d'un univers que j'avais très bien connu, dont j'avais été membre même à une époque. On le voit dans certaines archives. Donc, c'est vrai que ce travail aura une fin aussi, et c'est pas par hasard que ça s'appelle fin de concession. La fin, c'est aussi la fin de ce travail probablement sur les médias. Mais ça ne veut pas dire que mon travail s'arrête là, parce que mon travail, c'est simplement un aspect de mon travail, les médias, voilà, la critique des médias. Mais non, par contre, pour finir sur l'histoire de... Je pense, peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile à percevoir, mais je pense que ce film est très différent de Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, c'est un film à la Michael Moore. C'est un film où, voilà, on gagne. On gagne. Et vous, spectateurs, vous êtes sur des rails du début jusqu'à la fin, vous ne vous posez pas de questions. Non, je ne dis pas que le rat s'adapte au poison. Je pense que dans ce film-là, vous avez une part de doute, vous avez une part d'hésitation, vous avez une part d'interrogation que vous n'avez pas dans Pas vu, pas pris et qui me semble être très importante pour vous, spectateurs. Je pense que là, vous avez matière à travailler, vous avez matière à vous poser des questions, vous avez matière à... Je pense même que ce film, je vais vous dire un truc qui va vous paraître provocateur, ce film il est même pas sur la télé. Il se déroule dans l'univers de la télévision, mais c'est un film sur les rapports entre le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est un film sur c'est quoi qu'être rebelle, que rester rebelle, que est-ce qu'on peut résister aux flatteries, est-ce qu'on peut résister aux honneurs, est-ce qu'on peut résister à l'embourgeoisement, est-ce qu'on peut résister au charme de certaines femmes journalistes, est-ce qu'on peut voilà, je pense que le film pose tout un tas de questions de ce type qui dépassent largement que dans tous les univers dans lesquels on évolue, dans tous les univers où il y a des enjeux de pouvoir, où il y a des gens qui essaient de foutre en l'air l'ordre établi, ces questions se posent. Celle de se faire bouffer ou pas par le système. Voilà. Donc je pense que ce film, il dépasse complètement l'univers de la télévision, il se déroule dans cet univers-là, mais il me semble que si à un moment donné, moi je vous fais part de ce matériau autobiographique, c'est pas que j'estime qu'il a une portée universelle, qui me dépasse moi. Moi je suis un acteur là-dedans, mais un acteur il raconte une histoire qui le dépasse sa propre personne. Voilà, donc je fais ce pari, hein, je me trompe peut-être, hein, mais je fais ce pari que ce film il raconte autre chose que ce qui se passe dans l'univers des médias. Il est beaucoup plus large. Voilà. Après vous pouvez ne pas être d'accord et...
J'avais une petite remarque. Enfin, je suis un petit peu déçu et à la fois d'un côté et intéressé. À titre personnel, évidemment, c'est la suite de tout ce que vous avez fait, qui est intéressante et qui effectivement est plutôt un aboutissement dans tout ce que l'on ressent aussi de difficultés aussi de dénoncer aujourd'hui des choses qui se passent tant au niveau des médias mais que dans d'autres domaines. Hein. Cette façon qu'ont aujourd'hui les gens entre guillemets de l'élite, parce qu'il ne faut pas non plus tout généraliser, mais d'éviter cette stratégie d'évitement des problèmes qu'on voit à travers les réactions des journalistes. Je ne sais pas si le rat s'habitue au poison, mais il apprend à bien l'éviter, quoi. Et moi, là où je suis un peu embêté, alors c'est vrai que moi, j'aime bien ce que vous faites depuis toujours. Moi, j'étais venu voir ici ce film en me disant, je vais peut-être le projeter à des lycéens, ce film. Je vous avais envoyé un mail, d'ailleurs. Et en fait, je me dis que, en l'ayant vu, je crois pas que je vais leur montrer ça, parce que je pense qu'ils comprendront rien du tout. Ils comprendront pas les codes. Tout le film s'appuie sur tout ce que vous avez raconté depuis que vous avez commencé les films. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne pourront pas comprendre. Et c'est là où ça m'embête un peu, parce que tout ce que vous dénoncez, tout ce que vous mettez en démonstration est pertinent. Mais je pense qu'il faut être parmi de ceux qui ont vu tout ce que vous avez fait pour bien comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu. Et je pense, par exemple, vous en avez parlé, l'histoire du... Je serais curieux de voir, moi, une assemblée de lycéens qui voit le moment où votre équipe est en train de taguer le scooter. Je suis sûr qu'on aurait des réactions d'incompréhension, mais alors... Total. Il y en a qui comprendraient très bien, mais je pense que la majorité des jeunes, notamment des jeunes, mais il y a plein de gens, vous l'avez montré à des adultes et qui n'ont pas compris aussi. Je pense qu'il y a un décalage aujourd'hui. Ce que vous montrez s'appuie sur tout votre travail passé, et peut-être que ce qui est difficile aujourd'hui à comprendre pour des gens qui n'auraient pas suivi tout ce que vous avez fait avant, c'est d'essayer de comprendre ce que vous voulez continuer à montrer. Cette difficulté qu'on a à dénoncer des mécanismes de protection du pouvoir des médias, et malgré tout ce travail de dénonciation qui devient très difficile à voir pour des gens qui n'ont pas suivi ce que vous avez fait, je pense.
Le fait que des lycéens soient choqués ou soient ne comprennent pas, c'est marrant que vous dites ça parce que j'avais présenté le film Attention danger travail, qui a été réalisé avec Christophe Coyot, Stéphane Gox. Je l'ai présenté dans les lycées. C'est là qu'il a eu les réactions les plus hostiles et les réactions d'incompréhension les plus importantes. Alors que c'est un film extrêmement simple, même presque simpliste à certains égards. Donc, moi, je fais pas des films pour faire plaisir. Je fais pas des films pour vous faire plaisir. Hein. Moi, je fais des films pour raconter ce qui se passe dans cette société. Après, je l'ai fait en essayant d'être le plus, on va dire. Faire en sorte qu'un public le moins averti possible puisse y accéder, mais je fais pas des films pour vous faire plaisir, ça c'est sûr, hein, c'est pas mon boulot ça. Je fais pas des films pour que vous aimiez l'action contre Pujadas. Je vous raconte qu'à un moment donné, un groupe qui est un peu désemparé par son impuissance, par l'impuissance actuelle, qui est une réalité historique, c'est-à-dire que je pense que on est tous confrontés à cette impuissance, décide cette action. Cette action, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'est pas là pour vous faire plaisir. Elle raconte ce qu'a fait ce groupe. Il n'a pas fait pour le film, le groupe. Il l'a fait parce qu'il pense qu'il est nécessaire d'inventer de nouvelles formes d'action. Donc il tâtonne, il cherche, et il invente cette forme-là. Et il ne vous le cache pas qu'il l'invente. Dans le montage de cette séquence, vous savez, on aurait pu la monter triomphale. Hein, c'est-à-dire qu'on virait tout Pujadas, on montrait que le scooter, et vous sortiez, vous étiez super ce qu'a fait Carr. Non, ce qui nous intéressait, nous, c'est que vous, spectateurs, vous ayez votre libre arbitre. Vous puissiez vous dire, non, j'aime pas trop comment ils l'ont fait, j'aime pas trop qu'ils soient en supériorité numérique, j'aime pas trop... Donc on a laissé l'action dans une relative longueur dans le montage, pour que vous puissiez, vous, spectateurs, exercer votre libre arbitre, exercer votre esprit critique, ne pas avoir un regard univoque sur cette action, c'est-à-dire que nous, réalisateurs, monteurs, on vous manipule pas pour dire ce qu'il faut penser de cette action, mais vous soyez libre. Voilà. Moi, ce qui m'importe en tant que réalisateur, c'est que vous, spectateurs, vous soyez le plus libre possible, y compris de rejeter des choses qui apparaissent dans le film, que l'on fait seul ou que je fais seul ou avec d'autres. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus important. C'est pas de vous faire plaisir. C'est de vous donner la possibilité d'exercer votre libre arbitre, votre esprit critique, et de travailler. Voilà. De bosser comme spectateur, de pas être passif, de pas être pris par la main pour savoir ce qu'il faut penser, et d'être parfois dérouté, d'être parfois énervé, d'être parfois emmerdé par ce que l'on voit. Mais ça, c'est pas grave. Moi, mon échec, ça serait qu'à un moment donné, vous quittiez la salle. Si vous n'allez pas jusqu'au bout du film, ça, c'est un échec pour moi en tant que réalisateur. Après, je pense que le film a suffisamment de... Quelqu'un dit que c'est un film relativement drôle, un film relativement agréable, je sais pas, d'un point de vue spectaculaire. Bon, donc, vous restez normalement jusqu'au bout. J'ai pas vu grand monde sortir de ce film, donc vous restez jusqu'au bout. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'aimer le film, d'aimer les actions qui apparaissent dans le film, d'aimer les séquences du film. Enfin, je pense qu'après, vous êtes capable, et c'est très bien. Hein. Moi, les films en tant que spectateur qui m'intéressent, c'est pas les films qui me rassurent, qui me disent, qui me caressent dans le sens du poil, c'est plutôt les films qui me déroutent, qui m'amènent à me poser des questions que je ne me posais pas jusque-là, qui me chahutent. ou on se raconte pas d'histoire, on ne se raconte pas d'histoire. Je pense dans ce film, on ne se raconte pas d'histoire.
Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est pas du tout. J'ai du mal m'exprimer. C'est pas une
histoire. Ils aimeraient pas ils aimeraient pas l'action au plus jeune du scooter, mais ça.
Ça c'était un exemple, mais en voilà un autre, par exemple. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est les codes. Je pense qu'il y a des gens qui ont jamais vu ce que vous avez fait avant vont avoir du mal à comprendre ce que vous voulez dire. Quand par exemple c'est Jean-Luc Apathy à un moment donné qui est sur un plateau de télévision et qui dit et qui parle de TF1 ou qui parle de Montebourg en disant mais après tout cette entreprise a fait du business, c'est normal. Il y a plein de gens qui lorsqu'ils regardent Jean-Luc Apathy se disent mais oui, c'est une évidence. Ils n'ont pas le rebours que vous montrez depuis des années, qui consiste à dire, mais souvenez-vous du cahier des charges de TF1, souvenez-vous ce qu'on nous avait raconté sur le mieux-disant culturel. Le mieux-disant culturel aujourd'hui, je veux dire, c'est plus du tout dans la tête des gens, c'est terminé ça.
Vous avez raison, à
titre personnel, c'est un travail que je trouve moi remarquable. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir de l'impact, est-ce qu'il peut avoir provoqué une compréhension, une prise de conscience chez des gens qui connaissent pas ce que vous avez fait avant? Honnêtement, j'en suis pas certain.
Oui, donc je pense que même les lycéens pourraient comprendre. Bon, en plus, toutes les références sont données dedans. On voit très bien qui est Moujotte, même si on est lycéen aujourd'hui. Moi, je l'ai un petit peu vu depuis que j'ai 15-16 ans, que je regarde la télé. Bon, les lycéens, c'est certainement pas le cas. Mais je pense que c'est assez clair dans le film. Moi, j'ai pas vu les autres films. Bon, ça m'a pas empêché de comprendre celui-là. Je pense que vraiment. Après, c'est une histoire d'envie. C'est faire asseoir un lycéen 2h10 pour regarder ça. Ça, c'est moins évident. Ça, c'est moins évident.
Non, mais, oui.
Allez-y. En tout cas, oui. Tout à l'heure, vous avez pas. Vous parliez de ce film-là et de ce sentiment d'impuissance. Je pense que c'est ça qui peut toucher aussi, parce qu'on est vachement nombreux à vouloir faire quelque chose, à pas supporter la situation et à pas savoir quoi faire. Et en vous voyant faire, en fait, vous nous déculpabilisez. Nous qui ne faisons rien, vous nous déculpabilisez parce qu'on se dit, et en même temps, vous nous donnez envie, parce qu'on se dit, on n'est pas forcé de réussir, hein. Mais bon, l'important, c'est d'y aller.
C'est d'essayer.
C'est d'y aller. Et bon, pour ça, je vous remercie beaucoup d'avoir des actions telles que au crayon, parce que c'est... on a besoin, quoi. On a besoin, parce que c'est vrai qu'on est... Il y en a des millions qui sont descendus dans la rue. Moi, je suis pas très politisé, hein. Mais pourquoi? Parce que justement, à 15-16 ans, quand j'ai commencé à écouter la radio, à regarder la télé, quand je les ai entendus parler, ça m'a écorché les oreilles, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on me prenait pour un con, et c'est pour ça que j'ai jamais été très politisé. Bon, ben n'empêche que la semaine dernière, je suis allé dans la rue à la dernière manif. J'en avais pas fait une seule, mais parce que ça faiblissait et je voulais que ça garde un peu de. Et pour la première fois de ma vie, j'y suis allé, mais parce que faut pas qu'on la ferme, quoi. Donc c'est pour ça que je vous remercie.
Merci.
Parce que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas sponsorisée par Coca-Cola ou Megacola. En quatre parties à suivre en une seule soirée, tu ne verras pas les principaux chefs d'État délivrer des messages rassurants à la population en souriant. Tu ne verras pas les principaux responsables des partis de gauche appeler au calme et à la raison. Parce que la révolution ne sera pas. Par une personne ou Yanaï. Le générique ne sera pas interprété par Rage Against the Machine featuring Eminem, Bono et Beyoncé. La révolution ne te rendra pas sexy et attrayant. La révolution ne te donnera pas une belle couleur de cheveux. La révolution ne te fera pas perdre 5 kilos avant l'été. Parce que la révolution ne sera pas, ne sera pas télévisée.
les nouvelles filles ne pourront pas afficher le cours de la bourse pendant que les magasins sont en billets en direct. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de bonus ni de version DVD. Il n'y aura pas de métissier à la fin de la retransmission. Tu ne pourras pas pénétrer la dignité du chef. Tu gagnes un billet en compagnie du sous-commandant Marcos. Tu ne pourras pas recevoir la t-shirt de ton révolutionnaire préféré gratuitement. Livré par SMS, ton camp favori. Parce que la révolution ne sera pas télévisée. Marjorie s'en va, juste la spectateur nous devient gros acteurs.